Alors, donc cette semaine c'est Parashat Chayesara et notre speed, il va parler du début de la Parasha, donc de la mort de Sarah, de l'enterrement de Sarah, et après dans la Parasha il y a le mariage de Yitzhak avec Rivka, d'accord? Et notre Parasha elle fait le lien avec la Parasha précédente de Vayera où il y avait le sacrifice d'Yitzhak. Vous connaissez le Midrash qui dit que quand Sarah, on lui a fait savoir que Yitzhak, il allait presque mourir, puisqu'au sacrifice, il devait être tué, eh bien, elle a, après une crise cardiaque, elle est morte. D'accord ? Alors, le speed de cette semaine, il est tiré d'un sefer qui est relativement connu, un sefer chassidique. Ouais. Qui s'appelle le Tiferet Shlomo. Tiferet Shlomo, il a été écrit par un rabbin qui s'appelle Rabbi Shlomo Akohen Rabinovitch de Radomsk. Alors bon, c'est tous des noms un peu bizarres. En général, il est connu juste pour le nom de sa ville, Radomsk. On appelle le Tiferet Shlomo de Radomsk. Il était Cohen, ça c'est une chose. Et on l'appelait Rabinovitch, ça ne veut rien dire Rabinovitch parce que ça veut dire rabbin, le rabbin. Ouais. Donc en fait, les gens n'avaient pas de nom de famille. Les gens s'appelaient Shlomo Ben Yitzhak, Yitzhak Ben Gamliel. Et puis après, on leur donnait des noms qui correspondaient à leur fonction. Il était menuisier, il était pâtissier, il était rabbin. Donc ils les appelaient les Rabinovitch. Ils ont pris ce nom de Rabinovitch. Mais leur vrai nom, c'est Cohen. Et tout ça pour dire que même tout ça, ça a disparu. Il est connu pour le nom de sa ville. Il était rab de Radomsk. Et Radomsk, ça a fondé une chassidoute qui s'appelle la chassidoute de Radomsk. Il n'y en a plus beaucoup. Ils ont tous été, c'est des Polonais, donc ils ont tous été tués pendant la guerre. Il en reste très peu de chassidoute de Radomsk. Mais en tout cas, le premier de la lignée, c'est celui-là. On l'appelait le Tiferet Shlomo, il a composé donc ce livre qui est un des fondamentaux dans le livre de Chassidut. Et lui, c'était un disciple en fait du José de Lublin. D'accord, c'est les grands maîtres de la Chassidut, le Rabbi de Apta, le José de Lublin. C'est déjà la troisième génération, c'est après le Noam Elimeler. D'accord, il y avait le Baal Shem Tov, après, etc. Bon, pour ceux qui connaissent, donc j'ai déjà loin du Baal Shem Tov. Il a vécu en fait au 19e en Pologne. Ok, c'est pour vous le situer. Alors, si on va lire les deux premiers psukim, c'est marqué « Vatamot Sarah b'Kiryat Arba » Elle est morte, Sarah, à Kiryat Arba, Hebron. Kiryat Arba, c'est la ville des quatre. C'est les quatre couples qui ont été enterrés là-bas, ou qui seront enterrés. C'est Hebron, Beret Kenaan. Vayavo Avraham, il est venu Avraham. Avraham, après la Akeda, il était parti à Beersheba. Il est venu à Hebron, l'ispod les Sarah, pour faire une oraison à sa femme Sarah, et Ibkota, il a pleuré. Et vous rappelez tous qu'il y a ce fameux petit kaf ici, il n'est pas bien rendu le petit kaf, dans l'Ibkota, mais dans le Sefer Torah, la pleurer c'est écrit avec un petit kaf. Et le passage suivant, il dit, il y a comme Avraham et Alpenemeto, il s'est levé Avraham sur la face de son mort, donc de Sarah, il d'abord el benechet, il a parlé aux enfants de Chet, les morts, donnez-moi un lieu de sépulture, je veux acheter un terrain pour enterrer ma femme, elle est morte à Hebron, je vais acheter un terrain à Hebron, et j'aimerais bien voir la caverne de Marpella, puisque là-bas il y a déjà Adam et Chava, Adam et Ève. Après il y aura Abraham et Sarah, après Yitzhak et Rivka, et puis, etc. D'accord ?
J'ai été
là. Ouais.
Ah ouais.
Ouais. C'est magnifique.
Ouais, ouais, c'est très beau.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qui pose problème là-dedans ? Vous allez voir. En vérité, il soulève une question que de soi-même on n'aurait pas soulevée. Il y a rien qui vous choque là-dedans. Il est venu, il a pour laisser, pour la pleurer, et il a demandé un terrain pour pouvoir l'enterrer. C'est normal. Ah, il dit ceci. Il y a comme Avraham et Alpenemeto. Il cite le verset. Mais Midrash Rabba, dans le Midrash Melamed, ça nous apprend ces versets-là. Chez Yaroé, Malach Hamavet, même Hemem, l'abréviation c'est Malach Hamavet, Matris Kenegdo, qui essayait de l'embêter, d'accord ? C'est-à-dire que, puisque la Torah, elle dit, « Vaya comme Avraham al Benemeto », il s'est levé de la face de son mort. Si c'est besoin de nous dire, il s'est levé de... Il n'a qu'à dire, il s'est levé. C'est quoi, il s'est levé de la face de son mort ? Sous-entendu, bien sûr que Sarah a été couverte. Mais disons qu'il était devant le mort, et il s'est écarté de devant le mort, pour pouvoir demander l'achat du terrain. Et le Midrash, il traduit ça, donc il faut toujours se... Même si on peut lire dans un sens littéral, mais souvent le Midrash, il traduit ça par une image, il dit que Avraham Avinu, il voyait le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui l'excitait. Bon, Pourquoi l'ange de la mort était parti, puisque Sarah était morte, et quel ange de la mort? La parenthèse, Amar Rabbi Yochanan, Hentaninan, ça c'est ce qu'on a enseigné, Mishemeto Mutal Lefanav. Donc le Midrash il continue en faisant une analogie, il dit, si quelqu'un il a son mort devant lui, Patur Mekriat Shema Minatfila Minatfilin, il est dispensé de toutes les mitzvot, de Kriat Shema, de la Tfila, des Tfilin, de Chol Mitzvot Sheba Torah, et toutes les mitzvot positives de la Torah. Minacha, c'est ce qu'on voit ici, va Yakam Vaidaber. Il s'est levé, il a parlé. C'est-à-dire, il y avait le mort devant lui, il a rien fait, il s'est occupé d'aller voir les PFI pour acheter la tombe. D'accord? Aucune mitzvah.
Pas tour.
D'accord? Donc, en réalité, on voit que l'idée, elle est déjà proposée, même si on ne la comprend pas encore, elle est déjà proposée par le Midrash, qui dit qu'il s'est levé brutalement de devant le mort pour s'occuper de la tombe. Anire bebiura midrash. Ce qu'il me semble, troisième ligne, dans l'explication du midrash, qu'il chaora, a priori, en lervin. On ne peut pas comprendre maya kachelo lebala midrash. Qu'est-ce qu'il y avait de difficile pour le maître du midrash? Ve'er mochach minamikraze. Comment il a prouvé de ce verset-là? Pourquoi il s'excite sur ce verset? Il n'y a rien. C'est marqué, il est venu pour faire l'oraison, pour pleurer, et il s'est levé. Le Midrash dit, oulala, oulala, je suis en train de voir un truc, il y avait une guerre entre Avraham Avinu et le Malach Hamavet, et c'est de là qu'on apprend qu'on n'est pas tour des mitzvot. C'est incompréhensible. Très bien. Achen nire. Cependant, il me semble, des kavanat à Midrash, dans l'idée du Midrash, qui esh les dayek be'akatuv, on pourrait analyser le verset chez Neymar où c'est marqué Vayavo Avraham Lispot Vesara Velibkota. C'est marqué dans le passage, il est venu Avraham pour faire l'oraison de Sarah et la pleurer. Ok? Velo Neymar chez Asaken, c'est pas marqué qu'il a fait ça, Vispida, et qu'il a fait l'oraison. C'est-à-dire que quand je te dis il est venu, ouais, Avraham est venu, il est venu pour faire l'oraison. J'aurais attendu quelques mots de l'oraison. J'aurais attendu, et il a fait, et il a pleuré, etc. Rien. Il est venu pour faire ça, et il s'est levé, et il a parlé. C'est-à-dire, il y a eu comme une sorte de hiatus. Ça, c'est toujours important dans la Torah. Souvent, il y a ça. Ce qu'on appelle un hiatus, c'est-à-dire, il y a une coupure brutale, et il te manque un morceau. Alors, des fois, il faut remplir ce morceau. Mais si le Midrash dit non, il n'y a rien à remplir, il n'y a pas eu. Ça veut dire que le Midrash, il est en train de réinventer une histoire, de redécrire une histoire. Qu'Avraham Avinu, il est arrivé, donc il arrive de la Hakeda, corps tout joyeux, etc., mais il arrive à sa femme qui est morte. Il est venu pour faire l'oraison et la pleurer. Et il n'a pas fait. Il a changé totalement son fusil d'épaule, d'accord, il a dit non, je ne fais pas ça. Il s'est adressé aux gens de Chet en leur disant, voilà, maintenant je vais acheter le terrain, etc. Ok? Mais l'on est marché à ça, parce que, en réalité, c'est vrai que nous, on ne s'est pas posé la question, mais on aurait pu dire, alors il a fait raison, alors il a pleuré, alors ci, alors ça. Puis après, il s'est adressé. On nous décrit une intention, mais on ne décrit pas une action. Il valait mieux décrire l'action plutôt que l'intention. Quel est l'intérêt pour la Torah de dire « il est venu faire ça » Il fallait dire, puisque c'est marqué « Sarah est morte à Kiryat Arba », il est venu à Avraham et il lui a fait l'oraison. Vous voyez, c'est vrai que si on analyse maintenant, après ça, c'est criant la question. Regardez dans le passage. Va Yavo Avraham, il est venu Avraham, l'ispod, pour faire l'oraison et pour la pleurer. Il fallait être plus précis, et il fallait dire, il est venu Avraham, et il a fait l'oraison, et il a pleuré. Plutôt que de nous décrire l'intention. Donc le Midrash dit, si on te décrit l'intention et non pas l'action, c'est-à-dire pour te dire qu'il y avait intention, mais il n'y a pas eu action. D'accord? Et pour l'instant, on ne comprend pas, on nage dans le flou là. Oumiyad Ktiv, je suis à la 6e ligne. Oumiyad Ktiv, et c'est marqué immédiatement, Vayakam Avraham Alpenemeto. Avraham s'est levé de la face de son mort, et même cette expression, elle est bizarre. Se lever de la face de son mort, ça veut dire quoi? Lama itnachem laspida, pourquoi il a changé d'avis de lui faire l'oraison? Lachem. C'est pour cela. Baba la Midrash. Et donc c'est intéressant aussi ce speed parce qu'en même temps ça nous montre une analyse du texte, une analyse midrashique. Et en fait, c'est pas vraiment midrashique, c'est pshatique, ça veut dire j'aurais imaginé même que Rashi se pose la question. Alors en réalité, pourquoi Rashi se pose pas la question? Parce qu'on peut y répondre d'un petit revers de main en disant « Bon, ça va, on va pas te raconter, on a dit qu'il est venu faire ça, il l'a fait. » Tu comprends? Je veux dire, si je te dis « Il est venu écouter le speech », je ne vais pas me dire « Et il a écouté le speech, il est venu pour... » Non, non, non. Dans le langage courant, oui. Mais dans la Torah, il faut aller à l'essentiel. Il faut dire « Il a fait ». C'est pas « Il est venu pour faire ». Quand on dit « Il est venu pour faire », ben, tu t'attends derrière « Il a fait, il a pas fait ». Et c'est ça que dit le Midrash. Donc c'est... Vous voyez, c'est une sorte d'analyse du pshat selon le midrash. On est très pointilleux. Et il dit, la reine, je reprends au point, Baba la midrash, la septième ligne, il est venu le midrash, les tarets pour nous répondre, Shaya roe, même et même, il voyait le malachamavet matris kenegdo. Ve'ainyanu, c'est quoi ce sujet-là du malachamavet qui dansait devant lui? Alderer akatou, c'est sur la même idée que le verset qui dit Vayaster Moshe Panav. Vous vous rappelez dans le buisson ardent, donc un peu plus loin, dans Shemot, quand Moshe Rabbeinu il va se balader, il était chez Yitro, oui, poursuivi par Paro, il est arrivé dans le désert et il a vu un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Chazak. Vous avez des
intuitions. Non, des fois il y a des trucs qui me reviennent.
Mais c'est beau, c'est beau.
Mais j'ai.
C'est l'enseignement
tout,
de la jeunesse.
Tout
non, vous avez rien non, oublié, c'est tout dans le disque dur.
Oui, j'ai tout oublié.
Pas du tout, il suffit tout, de vous remettre
non, vérité,
et ça ressort.
Tout, mais des fois, il y a un flash en ça.
Eh bien, c'est extraordinaire.
Des fois.
Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vayaster Moshe Panav, Moshe a caché sa face quand il a vu le buisson. Et pourquoi il a caché sa face? Il a vu un buisson qui est brûlé. Pourquoi il cache son visage? Qui a rémé habite El Elohim, parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Et alors c'est vrai que pour nous ça nous pose pas de problème. Bon, il a peur parce qu'on sait que dans le passage qui s'est marqué, Hachem il a dit un homme pourra pas voir ma face, etc. Mais ça va, mon cher Rabbeinu, il savait pas tout ça, d'accord. Bon, pourquoi il avait un buisson ardent et Hachem lui a parlé, c'était la manifestation du divin et il a eu peur. Le Rod Selomar, et voici l'explication. Donc voilà l'ouverture de, et donc vous voyez qu'il fait une analyse, une comparaison. Écoutez bien. Entre le détournement de la face de Moshe Rabbeinu du buisson avec le détournement de la face d'Abraham par rapport à son mort. D'accord? C'est ça que dit le Midrash, c'est comme ça que l'explique Tiferet Shlomo. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là, ils ont détaché leur face de ce qu'il y avait devant eux? Rotseloma. Deineze klal gadol, c'est une grande règle. Tu suis Manu?
Je viens de te perdre, mais...
Je suis 2, 4, 6, 8, 9e ligne au point.
Ah, c'est bon, merci.
Au deuxième mot. C'est bon, Michel?
Oui.
Verot Selomar, il veut dire. Et toi, Betzalel, t'es bon?
Oui.
Deine zeklal gadol. C'est une grande règle. Bemalot atzadikim. Dans les niveaux des tzadikim. Amit alechim lifne elokim betamim. Qui marche devant Dieu avec tmimut, avec simplicité. D'accord, c'est reprend un pasouk ça. Af im khalila. Ba'a aleem midatadin, même si par malheur vient sur eux la midatadin, la tribu de rigueur, les eyachid, que ce soit pour un particulier, au rabim ou pour une communauté, chaz ve shalom, loit nu libam, litmonen, ils ne mettent pas leur esprit et leur cœur à réfléchir, maout atzaraï, quel est l'essence de ce malheur-là? Rahman al-Itsilam. Ça veut dire que chez les tzadikim, d'accord, et ça c'est une grande, vous allez me dire, mais j'en fais une obsession, mais chez les tzadikim, quand leur arrive un malheur, qu'on arrive avec leur famille un malheur, ou à la communauté un malheur, ils ne focalisent pas sur ce malheur. Ils oublient ce malheur, ils n'essaient pas de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est passé, etc. Velo yipol levavam, pour ne pas que leur cœur trébuche, les Hakshot en arrivaient à demander « Madoua Hashem Kara ». Pourquoi Hashem il a fait comme ça? Il dit pourquoi? Parce que plus tu vas t'approfondir sur le malheur, même si c'est pour y pleurer, plus finalement va émerger la question « Mais pourquoi? Mais pourquoi ?» D'accord? Donc, bien sûr il y a toujours des pourquoi techniques. D'accord? Mais ce n'est pas le pourquoi technique qui les dérange. C'est le pourquoi... Non, pas du tout. C'est le pourquoi divin, le pourquoi spirituel. Pourquoi Hachem, il a fait comme ça? Madoua Asha Hachem Kara. Pourquoi est-ce que Hachem, il a fait comme ça? Pourquoi Hachem, il a laissé faire? Pourquoi tu l'as les morts? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et donc c'est pour cette raison, Madoua sa Hashem kacha l'aret sazot, pourquoi Hashem il a fait ça à ce pays? Kilibam nachon ou bator. Et pourquoi? Est-ce que c'est un refus du questionnement? Il dit non. Kilibam batour nachon ou bator. Leur cœur, il est prêt et il est confiant. Bachem en Dieu qui tzadik biyachar ou. Kachem il est droit. El emuna, c'est un Dieu en qui on peut avoir confiance. Ven Avel qui ne fait pas d'erreur dans son jugement. C'est-à-dire, il n'y a pas de dysfonctionnement dans la manière dont Hachem a géré le monde. Ven Afor ou. Et c'est au contraire. Kimipi Elion, et vous soulignez ça, toute cette phrase. Kimipi Elion de la bouche d'Hachem qui décide. Lo Yetsu Araot ne peut pas sortir du mal. Rak Kulam Mekuvanim Letova. Et vous double soulignez. Simplement, tout est dirigé pour le bien. Voyez, toutes les mots sont importants. Vous soulignez toute cette phrase. Mipi Elion, de la bouche du divin. Lo Yetsu Araot, ne sort pas le mal. Rak Kulam Metu, Mekuvanim Letova. Est dirigé vers le bien. Il n'a pas dit tout est bien. Tu comprends? Tu ne peux pas dire, regarde, tu t'es cassé la jambe. Ha! C'est bien. Non, c'est pas bien. C'est dirigé vers le bien. L'autre, il est mort. Tu vas dire, ah, Dieu ne fait que du bien. Attends, mais il est mort. Non. Dieu, il fait que du bien, ça veut dire, ou c'est des fois une chose qui est dirigée vers le bien. C'est-à-dire, ça sortira du bien. Or, les tzadikim, ils sont persuadés de ça. Alors, s'ils sont persuadés de ça, si Béhémet, les tzadikim sont persuadés de ça, alors pourquoi Béhémet, ils détournent leur regard? Vélachem. C'est pour cette raison. Béoto Inyan. Dans le même sujet, vous êtes bon, je suis au deuxième paragraphe. Kacher Ra'a Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu il a vu Mar'e Asséné, l'aspect du buisson, ce buisson-là qui brûlait. Suis Betzalel, où on est? Ah oui, mais tu es grand maintenant, tu dois suivre. Mets le doigt, mets le doigt. Mar'e Asséné, quand Moshe Rabbeinu il a vu le buisson amoré à la galoute. Or, ce buisson qui brûlait ne se consumait pas. C'est un exemple sur l'exil. Oui, ce buisson qui brûlait, oui, ça représente les souffrances du peuple juif pendant son exil en Égypte.
Tout à fait.
Il brûle, il brûle, il brûle, c'est-à-dire on le fait brûler, mais il ne se consume pas, il ne se détruit pas. Velo Ratsa, Moshe Rabbeinu n'a même pas voulu réfléchir, Mazé Veal Mazé. Il a compris. C'était l'exemple de la souffrance du peuple juif qui allait venir. Et il a détourné son visage. Ar vayaster panav, il a caché sa face, qui arrêt parce qu'il avait peur, mais habite de regarder au lista qu'elle est de contempler, el bechinat a Elohim, du concept de Elohim. Puisque dans le pasouk, c'est marqué qui arrêt mais habite à la Elohim. Moshe Rabbeinu, il avait peur de regarder Elohim. Or, vous savez qu'Elohim, c'est la midat adin. Donc, c'est pas comme nous, on pense. Que Moshe Rabbeinu il avait peur de regarder Hachem. Oui, au contraire, lui, il était content de voir le dévoilement d'Hachem qui lui parlait. Simplement, il a eu peur de regarder la Midat Adin. Et il a détourné sa face quand Hachem lui a montré, voilà ce qui vous attend. D'accord? Vous allez sortir d'Égypte, mais vous allez recevoir. D'accord? C'est le buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il a détourné son visage. Il dit, je sais, mais j'ai pas besoin de regarder que ça brûle. Et il a détourné son visage de la Midat Adin. Même Moshe Rabbeinu. D'accord? Parce que, il dit, les tzadikim, ils veulent pas rentrer dans le questionnement. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est des questionnements qui échappent à l'humain. De ce sibour, on va retourner sur le sibour d'Abraham. Et c'est la même démarche pour Abraham Avinu qui s'est détourné. Donc on voit, oui, tu suis, Raph? Donc, parce que, on avait dit en début, que quand Abraham il est venu pour faire l'oraison punaise de sa femme, c'est pas marqué qu'il l'a faite. Il est venu pour faire et pour pleurer, puis après il s'est adressé aux gens pour acheter la tombe. On voit que le Midrash dit qu'il s'est détourné de sa femme. Le Pasuk aussi le dit. Et donc le Tiferet Shlomo, il fait l'analogie avec Moshe Rabbeinu qui se détourne du buisson ardent qui brûle. Il dit parce que dans les deux cas, ils avaient, on va revenir pour Abraham, il va continuer, on avait une Midat Adin très forte. Ça veut dire Hachem il montre à Moshe Rabbeinu que le clan d'Israël va souffrir. C'est ça le buisson qui brûle. Moshe Rabbeinu il dit j'ai pas besoin de regarder, d'accord? Je sais, j'ai compris, tu m'as dit, mais j'ai pas besoin de regarder. Mais pourquoi? Tu as peur de quoi? Il dit parce qu'un homme, c'est un homme. Je vais me mettre à poser des questions, pourquoi? Est-ce qu'on peut imaginer que Moshe Rabbeinu, il va être rebelle? Non. Eh ben oui, regarde bien. Ve'adini, regarde. El bichinat alogim ve'adini, penikshe be'enav, de peur que ça soit dur ou questionnant. Ikshe, c'est à la fois dur, à la fois questionnant. Tout ce qui est dur est questionnant. C'est Akushia. Be'enav à ses yeux, Al-Kacha, là-dessus. Ve'ireaya, et voilà la preuve. Voilà la preuve du danger de regarder la souffrance. Même pour quelqu'un d'aussi proche de Moshe Rabbeinu qui sait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fait que du bien. Kacher alar bishlichut azé. Quand il est parti pour cette mission chez Paro, oui, Vesam libo le tsaran chez Israël, et il a mis son cœur et son regard à la souffrance d'Israël. Vous vous rappelez quand il est parti et qu'il est revenu lui dire, mais tu es venu pour notre libérateur, et ça s'est encore plus aggravé, on ne nous donne même pas la paille, et on tape nos enfants, on nous frappe. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Lo yachol isbol. Il n'a pas pu supporter. Od ve tsaak. Il s'est mis à crier. Ve'amar, il a dit à Hachem, lama reota. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Donc c'est une rébellion. Ça veut dire que Hachem, il lui a montré. Il a dit, Moshe Rabbeinu, je t'explique. Il va y avoir une phase très dure. D'accord? Ça va tout brûler, mais ça se consume pas. Ça veut dire, il n'y a pas la destruction totale. Moshe Rabbeinu, pas de problème, j'y vais. Quand il va et qu'il voit l'état du malheur du peuple juif, il peut pas. Pourtant, il a parlé directement à Hachem. Hachem, il a dit, ne t'inquiète pas. C'est pas nous qui avons des questionnements. C'est Moshe Rabbeinu qui a un questionnement. Et il n'a pas pu se retenir de demander à Hachem, mais pourquoi? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi? Je t'ai dit que ça, c'est une phase de purification pour pouvoir sortir d'Égypte. Mais ça, l'homme, il ne peut pas l'entendre. Une purification pour le bien, d'accord? Que tout ce que Dieu sait du bien, qui est dirigé, que le mal, il est dirigé vers le bien, théoriquement, je peux l'entendre, d'accord? Je peux en faire des cours de philo, des cours de soir, de Rav Dessler, de tout ce que vous voulez. Mais quand tu as devant toi le malheur de l'autre, tu te dis, ne t'inquiète pas, c'est pour le bien. C'est insupportable. Donc voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, il a préféré détourner son visage du buisson. Vénénach, et il a été puni d'ailleurs, Miyad, quand il s'est rebellé. Vémorlo, quand Hachem lui a dit, à t'attirer, maintenant tu vas voir la libération, Véloyoter, mais tu verras pas plus, c'est là où a démarré la punition de Moshe Rabbeinu, il a pas pu rentrer en Eretz Israël. Il a dit, tu verras la libération d'Égypte, mais tu n'iras pas jusqu'au bout de voir l'entrée en Eretz Israël. C'est à partir de... Il y a plusieurs raisons qui ont fait que Moshe Rabbeinu a été puni et qu'il a pas pu rentrer en Eretz Israël. Maintenant, ça c'est pour Moshe Rabbeinu. Vous êtes bon? C'est ça qui dit le verset dans Tehilim. Mi'aish et Chapetz Chaim. Quel est l'homme qui désire la vie? Oev Yamim. Qui aime la longévité, l'irotov. Pour voir le bien. D'accord? Vous voyez cette idée de voir le bien. Rotzelomar. Mi'a Tzadik. Qui est le Tzadik? Asher Kol Ayamim. Que toute sa vie. Roé qui a kol raktov, mais Hachem Yitbarach, il voit que tout est bien d'Hachem Yitbarach, al mimila, alors, al yedeken, grâce à ça, si, c'est pas seulement, attention, il faut pas tomber dans l'excès inverse, on n'a pas dit que dire tout est bien, c'est essayer de ne voir que le bien. Ça veut dire que quand il y a des choses négatives, on essaye de pas regarder, on en tient compte pour aider, mais on regarde pas le malheur. Azmimela, à ce moment-là, c'est la fin du passage de Tehilim, allié de Ken, grâce à ça, il sort le Shonomera. Il va, ce type-là qui ne voit que le bien, eh bien, il gardera sa bouche du mal. C'est-à-dire du questionnement. Kiloyera benav klal Hashem itbara, parce que ça ne sera pas dur à ses yeux, le comportement d'Hachem. Donc, en général, on traduit ce pasouk, quel est l'homme qui aime la vie, celui qui garde sa bouche du mal? C'est pour le Lashon Hara. En général, ce pasouk, il est employé comme ça. C'est comme ça que le Rav Tzraimi le dit. Mais ici, il détourne ce sens du pasouk pour dire quel est l'homme qui voit le bien, c'est-à-dire l'homme qui ne fait que voir le bien, c'est-à-dire qui s'efforce de ne pas regarder des moments de malheur, et bien celui-là, il gardera sa bouche du mal, sous-entendu du questionnement contre Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a l'air de dire que le questionnement est naturel. Devant la souffrance, devant le malheur, la question, elle vient obligatoirement. Et dire, oui, c'est bien, c'est une ineptie. D'accord? La preuve en est, et on a la preuve et la contre-preuve dans Moshe Rabbeinu. Que dans Moshe Rabbeinu, oui, au début il a dit je regarde pas. C'était très bien. Mais le jour où on l'a forcé à aller regarder parce qu'il partait en mission et qu'il a rencontré les juifs qui souffraient, eh ben il a pas tenu, même Moshe Rabbeinu il a pas tenu. Il a dit mais pourquoi? C'est pas juste, c'est pas normal. Ok, ça c'est pour Moshe Rabbeinu. Veine. Vous êtes au dernier paragraphe ?
Oui.
Donc, une fois qu'on a fait tout ce détour, donc il a fait deux choses. Il a d'abord expliqué que c'est le comportement habituel des tzadikim et il a montré l'application dans Moshe Rabbeinu. Ve'iné. Kenadabar, c'était la même chose aya etzel Avraham Avinu Alav Hashalom. Il y a deux Aleph, un In. Vous voyez, ça c'est ouais. Avraham Avinu Alav Hashalom. Il s'est passé la même situation pour Avraham. Que Sheba l'ispod les Sarah, quand il est venu faire le espèd de Sarah, donc c'est l'oraison funèbre de sa femme, ok? Et Avraham et Sarah, c'était le couple parfait. D'accord? Un grand amour, ils ont vécu toute leur vie, enfin, même si la Torah ne le décrit pas, mais on voit transpirer des psukim que c'était un couple, ils sont connus, on ne sait pas à quel âge ils sont connus, mais ils ont vécu pendant 100 ans. Sarah avait 127 ans, ils ont vécu toute cette vie avec une entente totale. Ils partageaient tout ce qu'ils faisaient. Ok? Bon, on avait expliqué à la différence de Yitzhak et Rivka, où c'était une relation totalement différente, et Yaakov et Rachel et Léa, où c'était beaucoup plus tumultueux, etc. Avraham et Sarah, c'était... D'accord.
Malgré les problèmes qu'il a eu avec Agar.
Avec, oui, vous avez raison. Mais avec tout ça, il restait attaché à sa femme, c'était la femme qui l'aimait.
Ils ont failli se séparer à cause de ça.
Non, pas avec Sarah.
Non.
Ah oui.
À cause d'Agar.
Vous avez raison, vous avez raison.
Il y a tout un chapitre là-dessus.
Vous avez raison. Il dit, caché, que Shebal ispod les Sarah, regardez bien, quand Avraham Avinu est venu, il est venu du retour de la Hakeda pour faire l'oraison funèbre à Sarah, Ra'an Malach Amaved Matris Kenegdo. Il a vu l'ange de la mort qui essayait de l'embêter, de l'exciter. Rotzelomar, que ça veut dire ça? C'est une image. Vous voyez, quand il dit Rotzelomar, c'est bien attention. C'est pas qu'il a vu un ange qui dansait sur le cercueil, c'est pas ça l'idée. Kshehitril Leit Bonen. C'est quand Avraham Avinu il a commencé à réfléchir Almitat Sarah Tzadeket sur la mort de sa femme Sarah la Tzadeket. Elle avait 127 ans. Ils ont vécu toute cette vie ensemble. Ils ont partagé toutes les 10 épreuves. Ils ont partagé des milliers de choses ensemble. A Tzadeket Arishona, c'était la première Tzadeket Asher Meolam du monde. Pas directement d'Hachem, comme Chava. Asher Aïta M. Kolbne Israël. C'était la mère de tout le peuple juif. Vetikun Chava, et elle a même réparé la faute de Chava, puisque Chava, elle a fait fauter son mari, alors que Sarah, elle a aidé son mari. Veruach Akodesh Medaberet Mitor Grona, et que cette femme-là, elle avait l'inspiration divine qui parlait dans sa gorge, comme Hachem, il a dit à Avraham, écoute Sarah, parce qu'elle est inspirée, elle a Ruach Akodesh. Veata, et maintenant, Pitom Meta Alav, elle est morte, brutalement. Acharei Ma'alat Akeda, après la Akeda, c'est le summum de la vie d'Avraham Avinu, puisque c'est la 10e épreuve de la Akeda. Il a réussi cette épreuve, et Sarah et lui savaient très bien que leur vie serait faite d'épreuves pour s'élever vers Hachem. Et donc la dernière épreuve qui montre la victoire d'Avraham Avinu et finalement le sauvetage de Yitzhak, c'est à la suite de ça que sa femme meurt. Chez Artal et Ben Tzadik, elle a mérité un fils tellement tzadik. Et souligner Vélo Oil Laklou, et ça lui a servi à rien. C'est-à-dire que quand Avraham il est arrivé, il a vu Sarah morte, oui, et à dire tout ça pour rien, toute ma vie pour rien, le summum de mon existence, la joie que j'aurais pu partager avec ma femme, tu vois, ça y est, j'ai réussi mes examens, après 10 ans, j'ai réussi la maîtrise, j'ai réussi le CAPES, j'ai le poste, et paf, le jour où tu reviens de la réussite avec le diplôme, elle meurt. C'est un questionnement très difficile pour Avraham Avinu. Tous ces sentiments-là, même s'ils peuvent nous sembler un peu bizarres, eh bien en réalité, c'est ça que veut dire le Midrash, que le Yetzerara, il a rentré dans son cœur ce questionnement, qui est un questionnement d'Apikorsout, tu vois. C'est-à-dire, l'autre il dit, mais ma mère, elle est morte la veille de mon mariage, c'est pas normal. Il dit, attendez, c'est pas normal, d'accord, c'est l'idée de pas normal. Eh bien, cette idée, ce qu'il dit ici, qu'Avraham Avinu aussi, il avait ce questionnement, il dit, c'est pas normal qu'elle soit, cette femme seule soit morte. Donc il est venu, il a dit, je vais faire l'oraison funèbre, je vais décrire, etc. Mais quand il a vu la situation, il a dit, je ne peux pas, je ne ferai pas. Et c'est pour cette raison, pourquoi le Satan, il a fait rentrer ça? Donc le Satan, en réalité, il faut traduire, c'est pas le Satan, c'est l'introspection de l'homme, on est son propre Satan. Dans soi-même, on a ses propres questionnements. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient dire la mer, d'accord? C'est toi-même qui te poses ces questions, et ces questions, elles sont normales. Les Baavour Yikshe Benav, pour que ça lui pose des questionnements contre le comportement d'Hachem, Veiral Maase Elohim, et qu'il éprouve du mal à comprendre les actions de Dieu, Asher Asala, qu'Hachem a fait en faisant mourir Sarah. Lachem, c'est cette dernière phrase, Keshera Azé, quand il a vu ça, il a vu que ça commençait à bouillonner en lui, Miyad Piresh, il a dit, oh, on va pas aggraver la situation, il s'est écarté, il s'est levé de devant son mort, il a dit, c'est pas le moment, si je commence à parler de Sarah et de ma vie et de la valeur de cette femme-là, je vais dire des bêtises. Je vais dire des bêtises, je vais me révolter. Où tu as vu ça? Eh bien, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui lui-même était le plus proche d'Hachem, le jour où il était devant la souffrance, il a dit des bêtises, entre guillemets. Bon, il a dit, mais pourquoi Dieu, tu fais du mal à ce peuple-là? Et Abraham, il a eu peur de lui-même. Il a eu peur de sa réaction, d'accord? Et il a dit, il vaut mieux que je m'écarte. Donc il a laissé le mort, il s'est détourné. Oui, Velo Ispida, il lui a finalement pas fait de raison funèbre. C'est pour ça que dans le texte c'est marqué il est venu, mais c'est pas marqué il a fait. Vayakom et Alpenemeto, et il s'est levé de devant son mort, Vaydaber Dvarim Acherim, il a parlé d'autre chose. Voyez? Donc si vous relisez le verset en haut, les deux versets en haut, suis, Bezalel, tu es assez grand pour comprendre, suis. Tout en haut. Regardez. Vatamot Sarah Bekirat Arba Yichevron, Beretz Kanan, elle est morte Sarah. Vayavu Avraham, et il est venu Avraham, pas guilleré, mais il est venu, bon, c'est la vie. Il est venu l'ispod de Sarah, Velivkota, pour lui faire une raison et pour la pleurer. Et quand il était devant, ça a commencé à bouillonner en lui des questionnements très durs. Mais c'est pas normal, elle aurait pas dû mourir cette femme-là. Avec la valeur qu'elle a, avec l'effort qu'on est, le niveau qu'on a atteint, elle ne devait pas mourir. Il y a une anomalie dans le système. Dès qu'il a senti poindre ça, ce qu'on le Midrash il a traduit en disant, il a vu le Satan devant lui, voyez comme Abraham et Alpenemeto, et il s'est levé comme un ressort de devant son mort, il a arrêté, il a dit stop, j'arrête, je ferai pas de raison, voyez d'abord Alpenechet les morts, il a parlé aux enfants de Chet, il a changé, il s'est occupé maintenant des PFI. C'est-à-dire que quand, et donc si vous refaites un peu le tour, il veut dire que c'est aussi ça la raison pour laquelle on te dit de ne pas faire de mitzvot. Quelqu'un, il a un mort, la Torah dit, il fait pas de mitzvot, commence pas. Il va mettre les tefilines, etc. Si je te vois faire des tefilines, tu vas dire, mais comment? Et voilà, et moi je fais des efforts, et mets les tefilines, et pourtant voilà, il est mort, et ma mère, elle est morte, et mon grand-père, il est mort, c'est pas normal. On dit, tu sais quoi, ne mets pas les tefilines. Et le talit, non, ni le talit. Et la bracha, non. Et la prière, non. Ne fais rien du tout. On t'a rien demandé, d'accord? Le temps que ça se décante, et qu'il n'ait plus le mort devant lui. D'accord? Parce que ça, on n'est pas tour. Tant que le mort, il est devant lui, il doit être enterré. C'est quoi? Jusqu'au moment de l'enterrement. Une fois qu'il y a l'enterrement, on est déjà dans le passé. Tant que le mort, il est là, la situation, elle est chaude. Les chachamim, ils lui ont dit, ne fait aucune mitzvah. Et en particulier, le hesped. Même le hesped, en réalité. Pourtant, le hesped, c'est ce qu'on fait devant la mort. Tout le monde fait un hesped. On ne va pas dire, le hesped, c'est la raison funèbre. Mais Avraham Avinu, il était dans une telle situation que même le hesped lui était insupportable. Vous allez expliquer ce mot, et c'est pour cette raison qu'il a dit, je ne ferai pas d'oraison funèbre à ma femme. La douleur est trop grande. Effectivement, on voit des gens que quand ça arrive, ils ont tellement mal qu'ils ne peuvent pas parler. Il y a des gens qui ont la facilité. Mon père, mon grand-père, ma petite tata, et ils parlent au cimetière. Bon, il y a des gens qui n'arrivent pas. Pourquoi? Alors, en général, on dit on n'arrive pas parce que la douleur est très grande. C'est vrai, on a trop de peine. Mais ici, il y a un autre élément, que parfois la révolte est tellement grande qui dit, c'est pas la peine de parler. Qu'est-ce que je vais dire? Je veux dire, c'est un grand sadique, c'est une grande sadique. Alors pourquoi il est mort? Mais pourquoi il est mort, c'est un grand sadique? Pourquoi il est mort? Elle a 127 ans. D'accord, mais 127 ans, c'est quoi? Pour une grande sadiquette, elle ne pouvait pas voir son fils qui vient l'embrasser. Maman, maman, chérie, regarde, j'ai failli mourir. Voilà. Ça, elle n'a pas pu avoir ce plaisir-là. Il a dit, alors je préfère me taire. D'accord? Donc, c'est un peu obsessionnel, ma problématique, mais je pense que c'est, on est dans la même situation, comme vous l'avez bien deviné, et que il faut pas trop s'approfondir sur les événements, sur les faits, etc. On doit s'approfondir sur la souffrance globale et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire. Mais commencer à dire et à faire, et même l'oraison, même une oraison funèbre peut être dangereuse. Et même Avraham Avinu, il en a eu peur. Et même Moshe Rabbeinu, il en a eu peur, et le jour où il s'est lancé, il a trébuché. D'accord? Donc il faut s'orienter sur la reconstruction, et non pas sur la destruction. D'accord? Vers Mevin Yavin, comme dit la maxime, que celui qui comprenne, il a compris. C'est Oui. Avraham Avinu Alav Hashalom.
Ah, ça y est.
Voilà, mes chers amis.
Avraham, il savait que Avraham allait sacrifier son fils.
Non. Mais elle aurait pu en profiter du retour de Yitzhak. Elle a pas vu ça. Ok. Donc voilà. Donc il faut se protéger. Il faut se protéger pas seulement psychologiquement, mais il faut se protéger spirituellement. Un homme, il doit se protéger. Voir trop de souffrance, eh bien, motive le questionnement. Et ça, on sait pas le niveau qu'on a. Quand tu seras plus grand que Moshe Rabbeinu et plus grand qu'Avraham Avinu, tu pourras assister au malheur sans avoir peur de tes réactions. Mais là, ils ont eu peur de leur réaction contre Hachem. D'accord ? Donc c'est extraordinaire. Alors bien sûr que c'est pas de la rébellion. D'accord ? Quelqu'un va pas devenir un incroyant, mais il va poser des questions. Et c'est pas toujours positif de trop poser de questions.
C'est dur d'appeler ça de la picor soute.
Non, c'est pas de la picor soute, frère Jean. Non, c'est pas de la picor soute. Mais.
Tu disais tout à l'heure que c'était.
Ah, j'ai pas dit la picor soute, je crois pas que j'ai prononcé le mot-là. Mais peut-être. Mais en tout cas, c'est pas ce que je voulais dire. Poser un questionnement sur Hachem, ça serait justifié, c'est humain. Mais on ne doit pas se mettre devant une épreuve. Voilà. Il faut éviter, c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, ce qu'il a fait Avraham Avinu. Quand il a senti que ça commençait à bouillonner, d'accord, il a dit, bon, j'arrête, j'éteins Internet. Et Chabès.